France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Samedi 2 novembre, soyez les bienvenus sur France Musique. David Travailleur est à la réalisation, Lucas Derode, Ludovic Auger et Audrey Guélil à la technique. Bienvenue dans cette émission que nous consacrons aux pratiques amateurs, au chant choral, à la pédagogie et au plaisir de la musique. Et le menu du jour, le voici, à 8h, la chronique de Christophe Chassol et de ses invités du mois de novembre, deux jeunes chanteurs, Aliénor et Joshua. À 8h15, la violoncelliste Astrid Cyranossian évoquera ses premiers pas de musicienne. À 8h20, notre reportage, nous irons visiter le centre de formation des musiciens intervenant de Tours. Dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin nous parlera du canon, très utile dans l'apprentissage de la musique. Ce sera à 8h30. Et puis notre invité sera Julien Chauvin, chef de l'orchestre Le Concert de la Loge et directeur artistique du festival Osez Haydn qui se tiendra à Metz le week-end prochain. Enfin, Roselyne Bachelot évoquera la soirée opéra de France Musique avec Jules César en Égypte de Handel à l'affiche ce soir dès 20h. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de France Musique. Veni, veni, messe, quelle fida, extrait de Judita Triumphans d'Antonio Vivaldi, un extrait du tout nouveau disque de l'ensemble Jupiter, ensemble fondé par le luthiste Thomas Dunford. Magnifique nouveau disque consacré à la musique de Vivaldi qui vient de paraître chez Alpha en partenariat avec France Musique. Alors à l'affiche, on l'écoutait à l'instant, hein, la mezzo franco-italienne Léa Desandré dans des airs extraits d'opéra du prêtre Roux, encore quatre concertos pour luth et violon, basson et violoncelle. Et dans cet ensemble Jupiter, on retrouve d'ailleurs le violoncelliste Bruno Philippe, le claveciniste Jean Rondeau ou encore le violoniste Louis Créac. Un ensemble Jupiter qui sera d'ailleurs en concert très prochainement, ce sera le 29 novembre prochain, Salle Gaveau. Autre nouveauté ce matin avec ce disque baptisé Vision Fugitive, disque du pianiste Florian Noack. Il nous propose un portrait en musique de Sergueï Prokofiev. Et parmi les œuvres enregistrées, une petite curiosité, les rares contes de la vieille grand-mère. Quatre pièces courtes dominées par une certaine nostalgie qui s'appuie sans doute sur les propres souvenirs du compositeur, ceux des chants cosaques que lui chantait sa grand-mère alors qu'il était enfant. Je vous propose d'écouter Florian Noack. Thank you. 3 des 4 contes de la vieille grand-mère, opus 31 de Sergueï Prokofiev, interprété ici par Florian Noack. C'est une nouveauté, un nouveau disque qui paraît sous le label La Dolce Volta.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et chaque semaine, je sélectionne pour vous un livre, disque ou une bande dessinée pour faire découvrir la musique aux enfants. Et bien aujourd'hui, j'ai choisi pour vous Happy Jazz, qui paraît chez Didier Jeunesse. Alors, petite particularité ici, il ne s'agit pas d'une histoire contée, mais plutôt d'une sélection. Une sélection de 15 grands morceaux de jazz qui feront danser les plus petits. On peut entendre Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Fred Astaire notamment. Une sélection qui est le fruit du guitariste de jazz français Mistia Fitzgerald Michel. Et pour accompagner ces chansons, eh bien l'auteur Karl Norak nous livre des souvenirs d'enfance. Il raconte aussi le jazz et l'intimité d'une époque. Chacun de ces textes noue un rapport étroit avec les paroles des chansons, avec leur rythme, leurs instruments, leur énergie. Il y a aussi de très belles illustrations signées Ilia Green. Bref, de quoi nous rappeler que le jazz s'invite avec bonheur au pays des enfants.
Happy talk, keep talking, happy talk. Talk about things you'd like to do. You gotta have a dream. If you don't have a dream, how you gonna have a dream come true? Talk about a moon floating in the sky, looking like a lily on a lake. Talk about a bird learning how to fly, making all the music he can make. Happy talk, keep talking, happy talk. Talk about things you'd like to do. You gotta have a dream. If you don't have a dream, how you gonna have a dream come true? Talk about a boy saying to a girl, golly baby, I'm a lucky cuss. Talk about the girl saying to the boy, you and me is lucky to be us. Happy talk, keep talking, happy talk. Talk about things you'd like to do. You gotta have a dream. If you don't have a dream, how you gonna have a dream come true? If you don't talk happy and you never have a dream, then you'll never have a dream come true.
Ella Fitzgerald, l'inimitable Ella Fitzgerald, ici pour ce titre Happy Talk, qu'on peut retrouver donc sur ce disque, ce livre-disque Happy Jazz, qui paraît chez Didier Jeunesse. Alors je vous propose de gagner aujourd'hui sur France Musique des places pour le testament de la tante Caroline. On change complètement d'ambiance. Un spectacle qui sera donné le 7 novembre prochain au Théâtre Impérial de Compiègne dans le cadre du festival En Voix. Le testament de la tante Caroline, qui est une opérette d'Albert Roussel. Une opérette qui raconte les turpitudes d'une famille qui se déchire par appât du gain. Ce sont les frivolités parisiennes qui nous offrent l'occasion de redécouvrir cette comédie noire et scabreuse créée dans les années 30. Ça se passe donc au Théâtre Impérial de Compiègne le 7 novembre prochain. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Musique Matin. Vous nous donnez vos coordonnées et puis la bonne réponse à la question qui va suivre. Et vous recevrez peut-être deux places dans votre boîte aux lettres dans les quelques jours qui viennent. Ce matin, je vous propose de deviner le nom du commanditaire du magnifique théâtre impérial de Compiègne qui accueille le spectacle, cette salle à l'italienne de plus de 800 places. Un homme qui souhaitait un bâtiment à la hauteur des fastes qu'il offrait à ses nombreux invités lors de ses séjours réguliers à Compiègne. Trois propositions ce matin. S'agit-il de Napoléon III, de Mickey Mouse ou de Barack Obama? Ouh là là, c'est tellement compliqué. N'hésitez pas à tenter votre chance, en tout cas sur francemusique.fr. Bonne chance à vous. Et puis pour vous mettre l'eau à la bouche, voici un petit extrait du spectacle.
C'était un gars de la Bretagne, un jeune pêcheur breton, qui voulut que je l'accompagne pour pêcher la sardine et le thon. Il m'emmena dans sa nacelle par une
extrait du testament de la tante Caroline, opérette d'Albert Roussel, à découvrir au Théâtre Impérial de Compiègne le 7 novembre prochain dans le cadre du Festival Envoi avec les frivolités parisiennes pour tenter votre chance et remporter deux places, une seule adresse, francemusique.fr et vous nous donnez la réponse à cette question qui est le commanditaire du magnifique Théâtre Impérial de Compiègne. S'agit-il de Napoléon III, de Mickey Mouse ou de Barack Obama? Si vous avez une petite idée de la réponse, n'hésitez pas à participer pour recevoir peut-être ces deux places dans votre boîte aux lettres très prochainement. Thank you. Le premier mouvement de ce concerto que j'adore, concerto pour violoncelle en la mineure, Wolken 170 de Carl-Philippe Emmanuel Bach, interprété par Jean-Guy Enqueras, l'ensemble Résonance et Ricardo Minasi à la direction. Jean-Guy Enqueras, artiste en résidence cette saison à l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Les prochains concerts d'ailleurs en sa compagnie seront programmés pour les 6 et 7 novembre prochains au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg, au programme la redoutable symphonie concertante de Prokofiev, mais aussi la symphonie numéro 2 de Rachmaninov avec l'orchestre seul. Et puis Jean-Guy Enqueras offrira aussi le dimanche 10 novembre à 11h un concert de musique de chambre. Il proposera avec une partie des cordes de l'orchestre de faire découvrir, redécouvrir Schoenberg et Mendelssohn. Plus d'informations sur philharmonique.strasbourg.eu.
Les trésors de France Musique, de 23h à minuit, Françoise Monteil.
De lundi à mercredi, trois entretiens que Luciano Pavarotti avait accordés à Daniel Laruelle en décembre 1984. Les rôles clés de sa carrière, la technique, la scène, le public, autant de souvenirs et d'anecdotes émaillent ces trois émissions d'archives, illustrées des plus beaux enregistrements du ténor du siècle.
Les trésors de France Musique, de 23h à minuit, à retrouver sur France Musique et francemusique.fr. France Musique fête les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Toute la semaine prochaine, rendez-vous dans Musique Matin, Allegretto, Musicopolis, les trésors de France Musique. Et samedi 9 novembre, portrait de famille consacré au pianiste allemand Peter Rösl et Génération France Musique le live en direct de Berlin. Enfin dimanche, Rostropovitch à l'honneur dans Carrefour de l'Odéon et les orchestres berlinois dans Au cœur de l'orchestre. Toutes les infos sur francemusique.fr.
France Musique.
France Musique.
Vous allez là, do, ré.
Vous allez l'adorer.
Très bon début de journée à l'écoute de France Musique en ce samedi 2 novembre. C'est l'heure de la chronique de Christophe Chassol.
Chère auditrice, chère auditeur. Chère auditrice, chère auditeur.
Bonjour Christophe Chassol.
Eh bien bonjour Saskia. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un morceau, un tube de la musique classique, on va dire, un morceau d'Eric Satie qui s'appelle Gymnopédie numéro 1. Et nous sommes en très bonne compagnie avec Aliénor et Joshua qui vont se présenter. Aliénor ?
C'est Aliénor Ruel-Magrolis et je suis en 5e. Et je fais partie du chœur d'enfants Sotto Voce.
Super. Et à ma gauche ?
Bonjour, je m'appelle Joshua Duche, je suis en 6e, j'ai 11 ans et je fais partie du chœur d'enfants Sotto Voce.
Eh bien, je suis ravi d'être avec vous, les gars. Et c'est parti. Alors, Eric Satie, les Gymnopédies, vous connaissez tous cette mélodie. Donc, on va essayer de chanter ça, on va le chanter au fur et à mesure. Mais je vous parle un petit peu d'Eric Satie, qui est quelqu'un d'un peu particulier dans la musique classique. Il était... c'est quelqu'un de particulier. Je vous en dis pas plus, vous y regarderez. Tout le monde le connaît, mais il a vécu aussi dans la pauvreté. Il a inspiré beaucoup de le surréalisme, le théâtre de l'absurde. Et il a écrit ses Gymnopédies. Alors le titre, vous savez d'où vient ce titre ? Pas spécialement ?
Non.
Gymnopédie, moi c'est vrai que j'avais l'impression que c'était un programme de gymnastique, mais en fait c'est une danse que dansaient les Spartiates. C'est une danse où les Spartiates dansaient nus, tout nus. Et les Spartiates, vous savez ce qu'ils c'est ?
Oui.
Oui, c'est les soldats grecs.
Exact, ouais. Vous avez vu 300 de Bob
non.
De Zack Snyder ? Non. Ok. Donc les Spartiates, on dit souvent qu'on a un mode d'existence spartiate, c'est un mode d'existence avec...
Sportif.
Plutôt avec de l'ascétisme, enfin d'ascètes, c'est-à-dire de gens qui vivent pas dans la grosse richesse, vraiment avec le peu avec beaucoup d'économies. Et c'est un peu cette œuvre, c'est ça, c'est peu de choses, très minimal, mais voilà, une musique un peu d'ambiance, il appelle ça la musique d'ameublement, Satie. Mais voilà, c'est très beau, moi je connais ce morceau depuis très longtemps, et il a des sonorités très pop. Par exemple, ces deux accords au début, qui sont... Vous savez cet accord, ce que c'est ?
C'est Fa majeur.
Je peux pas parler.
Fa majeur.
C'est Sol majeur. Sol majeur, c'est. Sol, Ré et Ré majeur. Voilà. On alterne entre ces deux accords. Ce qui peut vraiment. Ça vraiment, donne vraiment une ambiance pop, je trouve. parti pour le moment. On se fait les deux premières mesures pour voir ?
C'est parti.
Ouais.
Fa la sol fa do si do ré la.
Travailler en fait avec vous, ça c'est génial. Ça vous plaît ?
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez de ce morceau ? Qu'est-ce qui vous évoque ?
J'ai pas vraiment d'idée.
Pas vraiment d'idée, mais bon, moi je vous dis, hein, moi pour moi c'est vraiment un calme plat, quoi. J'ai l'impression d'être devant la mer. Enfin, il y a quelque chose de stable. Il y a quelque chose de très stable, d'une grande étendue très stable et d'une mélodie qui se balade sur cette chose très stable. Et ce qui est très stable pour moi, c'est ces deux accords. C'est une harmonie très stable. Et déposer une mélodie par-dessus ça, c'est vraiment chouette. Vous voulez qu'on essaie de jouer plus rapidement pour voir ?
Mmh.
Par exemple, si je fais...
C'est parti.
Fa la sol fa do si do ré la. Fa.
C'est ça plutôt. Ah, voilà. On fait les deux derniers accords. Toi, tu peux me faire le Do, Aliénor, et Joshua, le La. La, Do.
Do.
Do. Et puis ensuite, le La et le Ré.
Ré.
Encore ces deux accords. Donc toi, tu me fais bien le... Tu me fais bien La, La, et toi, Do, Ré. Ok. Mais si vous avez des voix d'ange, c'est superbe. Bon, ben voilà. Hein, je trouve que c'est... Moi, ça me plaît, ce morceau. Je vous le chantais très bien. Il y a plein de façons de le jouer, ça. Et on peut le faire en accord. On peut faire même les accords. Si, Ré, Fa. La, Do, Fa. On fait Mita.
Si, Ré, Fa. La, Do, Fa.
Ce que je pensais que là qu'on allait faire, c'est que vous allez me faire les... Attends, on va essayer un autre truc. C'est-à-dire que tu vas faire... La, Ré, et toi. Do, La. Ok ? Un croisement. Okay.
La, Ré.
Okay. Et toi, Do, La. Vous le faites tous les deux tout seul ? 3.
La, La.
Toi, tu fais le Ré, après.
Oui.
Do. Ouais, super. Allez, on fait les deux derniers accords. 1, 2, 3.
Eh bien, rendez-vous à 8h samedi prochain sur France Musique, bien sûr. Vous pouvez réécouter ces chroniques et les partager sur francemusique.fr. Bonne journée à tous. Merci. et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Les dernières mesures des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach dans cette version trio à cordes signée Frank-Peter Zimmermann, Antoine Tamestik et Christian Polterra. Le trio Zimmermann, extrait de ce disque paru sous le label BIS et ajouté sans plus tarder à votre discothèque.
1, 2, 3.
Tu vois, toi, t'as de la chance de faire de la musique. Pourquoi n'en fais pas ?
Dans cette émission, nous nous intéressons au chant choral, ça ce sera avec Marc-Olivier Dupin à 8h30. Nous nous intéressons aussi à la pédagogie, à la transmission, aux pratiques amateurs. Ces amateurs qui jouent pour leur propre plaisir, c'est d'ailleurs par là que tout a commencé pour les musiciens professionnels. Et ce matin, j'ai demandé à la violoncelliste Astrid Cyranossian de nous raconter ses débuts et l'impact de la musique sur sa vie.
Alors si je devais décrire la musique et ce qu'elle me procure, je dirais que c'est avant tout un mode de fonctionnement, et puis la musique est omniprésente dans ma vie, donc c'est-à-dire que je cohabite avec la musique et c'est tous les sentiments que j'ai dans ma vie, je les retransmets dans la musique, en tout cas j'essaye. Alors, j'ai eu la chance dans mon parcours d'avoir de vraiment magnifiques professeurs. La première que j'ai eue, ça s'appelait Marie-France Hubert, dans une petite école à Romans-sur-Isère, et je m'en souviens puisqu'elle ne lâchait rien avec les enfants qui commençaient le violoncelle. Elle voulait absolument que tous les enfants qui commençaient le violoncelle continuent, et elle avait tout un tas de méthodes très très ludiques et très intéressantes pour capter l'attention des enfants. Après, j'ai eu de magnifiques professeurs, Patrick Gabart notamment, avec qui je suis restée une dizaine d'années, Yvan Chiffolo au CNSM de Lyon, et puis Yvan Monighetti qui pour moi est mon grand maître. Si je devais me souvenir du tout premier cours de musique, c'était en solfège. J'étais très très petite, j'ai commencé l'éveil musical à 3 ans. Et c'était un professeur qui nous apprenait à chanter, à apprendre la musique de manière très très naturelle en fait. Elle nous faisait apprendre en ne nous donnant aucunement l'impression qu'elle est en train de nous apprendre quelque chose et que nous sommes en train de travailler. Donc c'était vraiment très 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 ludique. Alors dans l'apprentissage, je dirais que ce qui est difficile, c'est de toujours recommencer tous les jours dans la musique. C'est vrai que on a beau avoir fait un magnifique concert, le lendemain il faut recommencer. Je compare souvent ça avec les chefs en cuisine. Le meilleur chef du monde a beau avoir fait le meilleur plat du monde. Le lendemain, il va devoir recommencer à en éplucher ses légumes. Et c'est un petit peu ça. Dans l'apprentissage, il faut apprendre à se réjouir de construire, démolir pour mieux avancer. Si j'avais un conseil à donner aux jeunes musiciens amateurs et aux jeunes musiciens en général, c'est de ne jamais oublier le plaisir de la musique et puis de toujours essayer de se dire que même s'il faut travailler des éléments techniques, c'est toujours pour être au service de la musique et c'est de ne jamais penser la technique sans la musique et quelque part la musique sans la technique puisque c'est le fait de travailler et puis de constamment approfondir ses connaissances sur l'instrument nous donne plus de possibilités musicales, donc ça c'est le... Et puis surtout de rester soi-même et de ne jamais oublier le plaisir de la musique, oui. Je pense que pour rester soi-même, la meilleure des solutions, c'est de toujours croire en son instinct, en ses instincts, et puis de toujours se faire confiance. Il faut toujours apprendre en musique, recevoir des conseils, les prendre, les mâcher, et puis après savoir les garder ceux qui nous font du bien, ceux qui nous conviennent. Et puis je pense que de rester soi-même, c'est de vivre aussi, de ne pas oublier de profiter de la vie et de d'ouvrir sa curiosité vers ce qui personnellement nous attire.
la violoncelliste Astrid Cyranocian, entourée ici notamment de sa sœur Shushan Cyranocian au violon, mais aussi de Jacob Lehmann, de Nicolas Mazzolini, de Bernadette Verhagen. Extrait donc de cet octuor à cordes en mi bémol majeur opus 1 de Félix Mendelssohn, quatrième mouvement, un enregistrement paru sous le label Alpha.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et c'est l'heure de notre reportage du jour. Bonjour Clément Buzalka.
Bonjour Saskia, bonjour à tous.
Devenir musicien intervenant, comprenez, enseigner ou faire découvrir la musique à l'école, c'est la voie vers laquelle se lancent chaque année des centaines d'étudiants. Et il existe bel et bien une formation dédiée à ce métier. Clément, vous vous êtes rendu au CFMI de Tours, le centre de formation des musiciens intervenants. Et vous allez le voir, ou plutôt l'entendre, on est ici bien loin des manuels scolaires et des livres de solfège.
Quoi qu'en croient vos oreilles, nous sommes ici à l'université. On l'admet, le cours est particulier, les étudiants et leurs professeurs sont pieds nus, assis par terre, ils échangent en onomatopée et en javanais. Bienvenue à l'atelier de gamelan indonésien. Dans cette musique, tout est nouveau pour les étudiants, les notes, les cycles, les mélodies. Confrontés à l'inconnu comme des enfants avec la musique, ils doivent se débrouiller pour s'approprier l'instrument et ses codes sous le regard entraîné de Dominique Billot.
C'est une musique dans laquelle on apprend à jouer, à chanter en même temps. C'est également une chose qu'ils font lorsqu'ils accompagnent les enfants en chantant avec leur guitare à la main ou leur clavier. Et puis il y a des formes que l'on peut recomposer à l'école ou s'inspirer de formes qui existent dans le gamelan, c'est-à-dire que ce sont des formes cycliques, donc ils sont assez faciles à mémoriser, à répéter. Et on peut notamment faire des versions vocales ou instrumentales avec quelques éléments qu'on peut trouver dans les écoles ou qu'on peut même apporter avec une casserole, des fourchettes, je ne sais quoi.
Un atelier ludique qui sollicite la curiosité et la création, à la fois chez les intervenants mais aussi chez les enfants, comme l'explique Isabelle Grégoire, la directrice du CFMI.
Tous les objets qu'on peut détourner, tous les espaces sonores et même des murs, un radiateur, enfin tout ce qui peut sonner autour de nous, peut être utilisé avec des enfants. Et les jeunes enfants sont particulièrement inventeurs, inventifs dans ce domaine. Donc il est nécessaire que les musiciens, finalement en formation ici, puissent parcourir, se questionner et vivre aussi ces expériences qui sont fondamentales d'un point de vue de la création.
Au CFMI de Tours, la soixantaine d'étudiants développent des profils mixtes, jonglant sur le plan musical d'un côté et pédagogique de l'autre. Un programme professionnalisant qui séduit Clara, étudiante en deuxième année.
Il y a beaucoup de pratiques, que ce soit pour forger notre bagage de musicien. On a des cours de guitare, de piano, de chant, de composition. On est en stage toutes les semaines dès la première année dans les écoles auprès des enfants et on doit gérer des séances de 30 à 45 minutes tout seul dès le début. Donc ouais, c'est très formateur.
C'est un métier de passion et je souhaite transmettre ma passion aux enfants et plus particulièrement dans les écoles, ce qui permet justement l'accès à tous et donc à tous les enfants scolarisés de pouvoir toucher du doigt et apprendre et découvrir la musique.
Alexandra, elle est en reconversion professionnelle, ex-commerciale, elle se lance dans l'intervention musicale en milieu scolaire, mais avant d'aller au-devant de ses futures classes, c'est à elle de revenir sur les bancs ou presque de l'université.
Donc là je vais attaquer donc un cours de guitare.
C'est votre instrument de prédilection ou pas du tout?
Pas du tout, donc moi je suis violoniste et flûtiste et donc l'un des autres avantages de la formation que nous offre le CFMI, c'est de nous apprendre à nous accompagner avec un instrument polyphonique, donc le piano ou la guitare. Donc en ce qui me concerne, c'est la guitare, ce qui va me permettre de pouvoir accompagner dans le cadre de mes interventions les enfants, voilà, à l'aide de la guitare dans les chants ou les comptines que l'on pourra donc leur apprendre ou même dans des jeux musicaux avec donc les enfants dans le cadre de mon futur métier.
Encore 2 ans d'études pour ces futurs intervenants, tous conscients de la précarité de ce milieu professionnel qu'on décrit souvent comme difficile, mais eux préfèrent s'en tenir aux chiffres. Au CFMI de Tours, on affiche fièrement un taux de 100% d'insertion professionnelle.
Merci beaucoup Clément Buzalka pour ce reportage et à très bientôt sur France Musique.
Thank you.
L'Allegretto, quatrième mouvement du quintet Deutsch 956 de Franz Schubert, célébrissime quintet enregistré ici par le Quatuor Bella et Noémie Boutin, un extrait de ce nouveau disque paru chez Nomad Music en partenariat avec France Musique, des musiciens, le Quatuor Bella et Noémie Boutin, qui s'associent également le temps d'une création de l'œuvre sur vestige du compositeur franco-argentin Daniel D'Adamo, à découvrir donc sur ce nouvel enregistrement. C'est l'heure de la chronique Battement de cœur de Marc-Olivier Lupin. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Et vous avez choisi ce matin de nous parler du canon. Pourquoi ?
Oui, le canon, pas l'arme, mais la forme musicale qui est à la fois populaire et savante et qui a fasciné les compositeurs depuis des siècles. Les canons, il y en a pour des instruments, il y en a comme pour les voix aussi, et on va entendre le plus connu d'entre eux.
Pourquoi le canon est-il autant utilisé dans la pédagogie, Marc-Olivier ?
Alors le canon est un outil pédagogique formidable parce que il sert évidemment à des enfants qui ne lisent pas la musique, c'est-à-dire qu'on fait un premier travail dans une première phase sur la mémorisation et ça permet aux professeurs, aux chefs de chœur de faire un travail sur la qualité de l'intonation, de la qualité du timbre et de construire un son, de construire une phrase qui soit belle et généreuse. Et dans une deuxième phase, le travail permet, en faisant ces entrées décalées, permet de créer de la polyphonie avec à la fois le travail d'écoute, mais aussi d'arriver pour chaque enfant, chaque groupe, à tenir la ligne de ce qu'il a appris.
Sans se décaler.
Voilà, ce qu'il a appris à l'unisson. Donc c'est en fait une façon très progressive et facile d'aborder la polyphonie. Mais les compositeurs sont parfois facétieux, comme vous savez, vous en voyez beaucoup. Les compositeurs, parfois, ils partent en vrille sur le nombre de voix. Là, par exemple, on va entendre un canon à 36 voix, le Deo Gratias de Hockeghem, où vous entendez toutes ces voix qui se rajoutent les unes aux autres.
Qu'est-ce que c'est beau ?
C'est magnifique et c'est des formes qui sont au fond hors du temps puisqu'elles ont été toujours utilisées.
En tout cas, je sens que vous êtes très très emballé par le sujet,
Marc-Olivier,
que vous allez nous en parler.
Alors je vais vous en parler souvent parce que vous me demandez de réduire les plus belles choses de l'histoire de la musique à des petites chroniques.
Oui, je sais, je suis un monstre.
C'est un pari insensé, mais donc je vous en reparlerai. Ce qu'il faut quand même dire sur le canon, c'est très intéressant parce que au fond, la composition musicale, c'est à la fois un acte évidemment sensoriel et de la sensibilité humaine, mais c'est aussi une construction de l'esprit, une construction qui peut parfois d'ailleurs être un peu cérébrale ou trop cérébrale selon les compositeurs. Et donc le canon a fasciné les compositeurs depuis des siècles parce que c'est très ludique, c'est, je ne sais pas, comme faire des sudoku, jouer à des jeux vidéo absolument déglingués et passionnants. Donc il y a une construction cérébrale dans le canon qui a fasciné énormément de compositeurs, et il y en a bien sûr des canons anciens comme ceux qu'on vient d'entendre, mais aussi beaucoup au 19e siècle, au 20e siècle, et on va là entendre un court extrait d'un canon de Bartok qui a énormément écrit de canons, notamment pour chœur d'enfants, et ce sont des œuvres absolument magnifiques, là aussi à découvrir, redécouvrir.
Merci beaucoup Marc-Olivier, on va écouter cela bien évidemment, on vous retrouve la semaine prochaine et en attendant sur francemusique.fr. Merci Marc-Olivier. Un chœur à deux voix de Béla Bartók, ici interprété par le chœur Cantemus de Nyeré Gyaza, si je prononce correctement, Dénèche Sabot à la direction pour illustrer donc cette chronique de Marc-Olivier Dupin. Et puisqu'on parle de chant choral, eh bien, parlons de la maîtrise de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui, eh bien, peut-être perdu sa cathédrale, son lieu de concert, mais qui continue à se produire ailleurs. D'ailleurs, la maîtrise sera en concert le 5 novembre prochain à 20h30 en l'église Saint-Eustache, dans le premier arrondissement à Paris. Église Saint-Eustache qui l'accueille pour l'occasion, à la direction Henri Chalet, Yves Castagnier à l'orgue. Je vous propose d'écouter la maîtrise de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ici dans ce Salve Regina anonyme composé au XIe siècle. Les jeunes voix de la maîtrise de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dirigée ici par Lionel Sault. On écoutait ce Salve Regina. Si vous souhaitez bien entendre la maîtrise en concert, sachez que le 5 novembre prochain, la maîtrise donnera un concert en l'église Saint-Eustache, qui se trouve dans le premier arrondissement à Paris.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Bonjour Julien Chauvin.
Bonjour Saskia.
Violoniste, musicien, fondateur, directeur du Concert de la Loge. Quel plaisir de vous accueillir ce matin dans Musique Matin. Et nous allons parler d'énormément de choses, de musique bien sûr, mais aussi de cette deuxième saison de résidence à la Cité Musicale de Metz, résidence de 3 ans. L'occasion d'ancrer l'ensemble sur un nouveau territoire, Julien Chauvin.
Exactement, on a eu la chance de pouvoir construire avec la saison de l'Arsenal hein, de Metz, avec Michel Paradon et Florence Alibert, une résidence pensée sur 3 ans et qui nous fait travailler des programmes nouveaux, concrets à Metz. Et puis c'est évidemment l'idée d'enrichir des liens avec des lieux, avec des artisans, des musées, le conservatoire de la région de Metz, mais aussi élargi à la région Grand Est.
Est-ce que c'est l'occasion aussi de créer des grandes premières, Julien Chauvin, pour l'orchestre ?
Absolument, je pense que exactement. Je pense que une résidence, c'est pouvoir. C'est que les musiciens aient l'occasion de prendre des risques, en fait. Parce qu'il y a une confiance, bon, je ne veux pas dire totale, mais une grande confiance de la part des programmateurs, des organisateurs, pour imaginer des choses un peu folles, un festival autour de Haydn, mais aussi un programme rarement donné. On ne va pas être là sur des tubes comme le Requiem de Mozart ou le Sabbat Mater de Pergolèse. C'est donc... Pour la structure, c'est une prise de risque, mais ça permet, je le disais précédemment, de créer des liens en inventant ou en réinventant des liens avec la région.
Qu'est-ce qui vous a émerveillé, Julien Chauvin ? Alors, on parlait de cette deuxième saison, vous avez eu le temps de visiter, de mieux connaître peut-être la région. Qu'est-ce qui vous a ébloui en vous y installant ?
Eh ben, je pense que toute région, quand on commence à s'y attacher et quand on commence à y regarder d'un peu plus près, on passe un peu plus de temps. C'est-à-dire que, vous savez, quand on va faire un concert, on vient la veille, on vient l'avant-veille, on reste 2 jours après. Donc, ça nous permet de parler avec des artisans, des chocolatiers, qui seront présents d'ailleurs dans notre festival, des directeurs de conservatoires, des directeurs de musées. Ça nous permet aussi, quand on est à Metz, évidemment, avec toutes les richesses architecturales, de musées et autres qu'il y a, et d'artisans, c'est aussi de pouvoir prendre sa voiture et d'aller, par exemple, à Mirecourt. Mirecourt, qui est à quelques kilomètres de Metz, mais qui est le véritable berceau de la lutherie française dès le XVIIIe siècle. Et ça, c'est une ville, évidemment, qu'on a pu oublier avec le temps, mais à laquelle nous, les instrumentistes à cordes, nous sommes très attachés. Et c'est pour ça que je suis très très heureux et très fier d'avoir rétabli un contact entre évidemment la ville de Metz, qui est un peu quand même la capitale, et cette petite bourgade de Mirecourt, dans laquelle il y a un très beau musée sur les instruments. Et c'est surtout que c'est une ville qui a tellement compté au 18e, au 19e siècle pour l'apprentissage des jeunes luthiers, mais aussi tous ces instruments qui vont être fabriqués, qui vont irriguer l'Europe entière.
Et ce musée sera bien évidemment ouvert lors de ce festival que vous évoquez depuis tout à l'heure, Julien Chauvin, festival Osez Haydn, dont nous allons parler. Mais tout d'abord, eh bien, je vous propose d'écouter l'un des artistes qui sera programmé dans ce cadre de ce festival. Il s'agit d'Alain Planès.
Thank you.
Alain Planès ici dans ce Vivace Molto, quatrième mouvement de la Sonate au Bouquin 16 numéro 34 de Joseph Haydn, musicien qui sera à l'affiche du festival Osez Haydn qui se tiendra du 7 au 9 novembre à Metz cette année, puisque c'est un festival qui est né à Paris, qui voyage. Julien Chauvin, vous en êtes le fondateur, l'initiateur. C'est un festival itinérant, il va bouger dans les années à venir. Également.
Oui, absolument. Il sera présent l'année d'après, en avril 2021, à Caen, au théâtre de Caen. Et c'est vrai que c'était l'idée de ce festival qui pose ses valises un petit peu dans des villes différentes chaque année. C'était de faire un week-end un peu avec un focus sur cette personnalité, Joseph Haydn, à laquelle évidemment, vous le savez, je suis très attaché, parce que le travail qu'on peut faire de sensibilisation à cette musique qui est tellement extraordinaire, il est un peu sans fin, ce travail, parce que il y a beaucoup à faire. Et je pense que la structure qui doit prendre ce risque de programmer du Haydn, qui est une musique parfois moins évidente sur le papier que celle de Mozart. Mozart a le génie tellement facile et mélodique qu'en 3 secondes, on est bouleversé par une mélodie ou une harmonie de Mozart. Mais finalement, c'est la même chose avec Haydn, mais il faut parfois peut-être en parler, l'expliquer, et puis décrisper un petit peu à la fois et l'auditeur et les programmateurs.
Et ce sera le cas dans le cadre de ce festival, puisque au-delà du concert, vous proposez des conférences, des débats, et puis oui, des expositions, conférences sur la lutherie, sur la présence de Haydn à Paris, et ce concert, oui, dont je suis très curieuse, vous en avez glissé un petit mot, mais je suis une gourmande, hein, le concert, oui, Musique, oui, à croquer, de quoi s'agit-il? Ah, oui. Exactement, on pourra déguster du chocolat tout en écoutant du Haydn.
Absolument. Alors, on a fait une mise en bouche le début octobre avec le quatuor Cambini, parce que il y a un chocolatier très très fameux qui est installé à Metz. C'est Philippe Mas qui est là depuis plusieurs générations. Et en fait, il est violoncelliste amateur, il est musicien, il connaît bien la musique. Et on lui a demandé de créer un chocolat pour nous, pour le quatuor, un chocolat qui s'inspirerait des 4 personnalités d'un quatuor, 2 violons, 1 alto, 1 violoncelle. Et puis, donc, d'imaginer ça en chocolat, donc 4 textures, 4 goûts. Et donc, il a inventé un chocolat qui a absolument à tomber avec.
Et quelles en sont les saveurs?
Alors, vous savez que le violoncelliste, c'est Atsushi Sakai qui est violoncelliste de notre quatuor, qui est japonais. Alors, il a commencé son chocolat par une ganache chocolat noir avec huile de sésame qui vient du Japon. Ensuite, il a mis un praliné chocolat au lait pour l'alto, qui est entre 2 couches, et puis une ganache chocolat au lait avec des zestes de citron vert et citron jaune pour les 2 violons. Alors ça, bon, au début, on l'a un peu pris mal parce que la signification du violon avec
l'acidité,
le goût citronné, exactement. C'est évidemment ce qu'on recherche à effacé du violon, mais bon, avec le boyau, on sent pas l'acidité, et donc tout ça est recouvert d'un enrobage chocolat noir avec une petite touche de praliné.
Ah,
et
voilà, ça se déguste.
Oui, mais c'est vrai, j'espère. Mais en tout cas, il est extrêmement réussi. Alors, Philippe Mas sera là et fera bien sûr déguster ce chocolat précis qui s'appelle le chocolat Cambini. Et puis, il va aussi préparer devant les yeux des goûteurs un chocolat chaud, un chocolat viennois, qu'il va faire évidemment à partir de son chocolat, mêlé avec de la crème fraîche, du lait, du beurre, enfin tout ce qu'il faut pour pour passer un bon moment avant d'écouter un concert de musique de chambre ou le Stabat Mater de Haydn.
Mais voilà, c'est une très belle manière aussi d'aborder la musique par ce concert musique à croquer, à découvrir dans le cadre du festival Osez Haydn qui se tiendra donc du 7 au 9 novembre, festival dont France Musique est partenaire. Bien sûr, Julien Chauvin, on va quand même dire quelques mots de ce nouveau disque dont nous allons écouter un extrait. Oui. Haydn toujours, Haydn encore, Haydn pour toujours.
Haydn, il faut que ce soit pour toujours. Après, c'est le quatrième volume. On a le dernier volume qui va sortir l'an prochain, avec deux dernières symphonies et ce Stabat Mater de Haydn. Mais on aura, je pense, tracé un sillon avec ces symphonies parisiennes qui sont écrites pour le concert de la Loge Olympique par Haydn, mais en les faisant dialoguer avec les grands esprits, les grands compositeurs français de l'époque. Sur les autres disques, il y a du Rigel, il y a du Jean-Chrétien Bach, il y a du Guénin, il y a du Raguet, il y a du Gluck. Et toutes ces personnalités, elles étaient évidemment extrêmement importante à l'époque, même parfois plus que Haydn. On les a oubliés parce que il y a ces trois génies, Mozart, Haydn, Beethoven, viennois, qui ont tout. C'est un tsunami musical à la fin du XVIIIe siècle. Mais ces personnalités françaises, il ne faut pas les oublier. Et c'est pour ça que je tiens à les enregistrer systématiquement à côté de ces grands chefs-d'œuvre de Haydn.
Eh bien, on va en écouter un extrait tout de suite. Merci beaucoup, Julien Chauvin, d'avoir été des nôtres ce matin. On vous retrouve bien sûr à Metz, dans le cadre de cette résidence.
Oui.
Et puis courez, chers auditeurs, au festival Osez Haydn du 7 au 9 novembre. On vous en reparlera bien sûr encore sur France Musique, puisque nous sommes partenaires de ce festival. À très bientôt, Julien.
Merci, merci Saskia.
Merci à vous. Le final de la symphonie en la majeure au Bouquin 1, numéro 87 de Joseph Haydn par le concert de la Loge et Julien Chauvin, qui était notre invité ce matin. Un extrait de ce nouveau disque paru chez Aparté.
L'heure est trouvée sur le plateau.
Allons-y. Effet 203, top. Entrée du chef.
Bonjour Rosine Bachelot.
Bonjour Saskia.
Alors ne me dites pas que c'est la sortie du dernier album d'Astérix qui va inspirer votre chronique ce matin.
Ah non Saskia, l'album La fille de Vercingétorix ne sera pas source d'inspiration, mais ce sera Jules César. Et en ces temps brumeux, je ne vous emmène pas en Gaule, on n'y reste pas, mais je vous emmène au soleil, en Égypte. La soirée de ce samedi va nous en fournir le cadre avec le plus célèbre opéra de George Friedrich Handel, Giulio Cesare in Egitto. Jules César en Égypte. Nous entendrons le concert donné au Festival d'Ambronay le 28 septembre dernier avec des talents lyriques sous la direction de Christophe Rousset. Vous rappelez, nous l'avions entendu en 2006 au Théâtre des Champs-Élysées avec le contre-ténor Andreas Scholl dans le rôle titre. Ce soir, vous entendrez le talentueux Christopher Lowry entouré de Karina Gauvin et de Eve Maud Hubeau. C'est vous dire si Judith Chen vous a mitonné une soirée d'anthologie avec l'opéra seria le plus joué du répertoire. Alors, Handel est alors au sommet de sa carrière quand il compose cette œuvre en 1723. Il a carrément pris l'ascendant sur son rival Bononcini et le retour de Hambourg du roi Georges Ier va être l'occasion d'un triomphe de cour puisqu'à cette occasion, il crée devant toute la famille royale une partition sur le psaume 103. Le coup de grâce va être porté à son rival le 20 février 1724 par la création de son Jules César, sixième de ses opéras sur 40 pour l'Académie royale de musique au King's Theatre in the Haymarket, théâtre qui existe toujours d'ailleurs. Le succès est immense, d'autant que ce sont les deux plus grandes stars du genre qui se produisent, le castrato Senecino, que Handel a ramené à Londres à prix d'or, et la soprane Francesca Cuzzoni. Alors, il va se passer par la suite un phénomène totalement incompréhensible. L'œuvre est jouée au King's Theatre jusqu'en 1732, devient l'œuvre la plus jouée en Europe jusqu'au milieu du 18e, et craque, comme tombe le rideau de scène, elle va disparaître des programmes pendant pratiquement deux siècles. Jules va tomber dans les oubliettes de l'opéra. Il va ressurgir de l'enfer en 1922, ressuscité par Oscar Hagen pour le festival à Handel de Göttingen. Rendons à César ce qu'on doit à Hagen. Si ce dernier va copieusement massacrer l'œuvre en transposant le rôle de castrat à baryton basse et en y faisant des coupes hasardeuses, cette exhumation est le début d'une reconquête, non pas des Gaules, mais bien des scènes lyriques du monde entier par Jules César, un succès jamais démenti depuis. Ce qui est fascinant dans cette œuvre, c'est la réflexion politique de type shakespearien qui parcourt le livret. Jules César poursuit son rival Pompée jusqu'en Égypte. Ptolémée, le fourbe, le roi d'Égypte, croit se faire bien voir de César en tuant Pompée. Fatale erreur ! Notre Ptolémée joue les rentes-en-plans, vous savez, le chien des Dalton qui, pour montrer son affection, pose ses pattes sales sur les beaux costumes de ses maîtres. César est furieux, car il voulait se réconcilier avec Pompée et ainsi sceller une entente politique à son profit. Ptolémée devient l'objet de la vengeance de la veuve de Pompée, Cornelia, de son fils Sextus, finira assassiné par ce dernier. Pendant ce temps-là, Cléopâtre, qui a eu du nez, est tombée amoureuse de César, qui lui offre le trône d'Égypte et partage son triomphe. Il y a dans cette œuvre bien des choses à méditer en ces périodes préélectorales agitées. Tiens, un conseil de César à nos stratèges électoraux. Nous sommes au premier acte, César est seul, réfléchit à ses plans et se compare au chasseur qui, invisible, se déplace en silence. Va tacito et nascosto. Et ça va pas être un chasseur, ça va être une chasseresse. C'est Marie-Nicole Lemieux qui va nous chanter cet air fameux sous la baguette de Alan Curtis et le complesso barocco Marie-Nicole Lemieux.
Merci beaucoup Roselyne, on écoute ça la semaine prochaine.
À la semaine prochaine Saskia. Nos cupo cacciato quando vi due di preda lo stunto cacciato.
Handel, pour terminer cette émission, en attendant bien sûr le rendez-vous opéra ce soir à 20h sur France Musique avec Judith Chen. Alors ce matin, je vous proposais de gagner sur France Musique des places pour le testament de la tante Caroline au Théâtre Impérial de Compiègne dans le cadre du festival Envoi. Ce sera le 7 novembre prochain avec les frivolités parisiennes sur scène. Je vous demandais de deviner le nom du commanditaire du magnifique Théâtre Impérial de Compiègne. Il s'agissait bien sûr de Napoléon III. Les gagnants seront contactés par email, bien évidemment. Merci à toute l'équipe, merci à Marie Ferdi, Nan, à des travailleurs, Lucas Derode, Olivier Dupré, Ludovic Auger et Audrey Guélil. La suite, bien sûr, sur France Musique, restez bien branchés. C'est France Musique est à vous avec la délicieuse Gabrielle Oliveira Guyon. Très belle journée et à samedi prochain.
À réécouter sur francemusique.fr.